Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique que vous écoutez sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. L'ambassadeur algérien reçu par le numéro 2 de la diplomatie russe avant son départ, la Russie pourrait créer un hub de transport en Afrique de l'Est et 4 pays africains dans le top 25 des marines les plus puissantes du monde. Une semaine après la destitution de Mohamed Bazoum, quelle est la situation au Niger ? Un enseignant-chercheur burkinabé et un ex-ambassadeur malien feront le point sur la situation dans le pays. Le Burkina Faso célèbre 63 ans d'indépendance. Un journaliste burkinabé et le secrétaire d'une association d'anciens étudiants en ex-URSS reviendront avec nous sur la portée symbolique de cette date pour les Burkinabés. La Russie n'oubliera pas Smaïl Ben Amara. L'ambassadeur d'Algérie en Russie a été reçu à Moscou à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique. Le ministre russe des Affaires étrangères a fait savoir que M. Ben Amara s'est entretenu avec Mikhail Bogdanov, le vice-ministre des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Lors de cette rencontre, les deux parties ont confirmé leur intention de poursuivre le développement progressif de tout l'ensemble des relations russo-algériennes traditionnellement amicales. Une attention particulière a été portée sur le maintien d'un dialogue politique actif et constructif concernant les questions internationales et régionales d'intérêt mutuel. Pour rappel, les liens russo-algériens ont été mis en valeur en juin dernier dans une déclaration de partenariat stratégique approfondie à l'occasion de la visite du président Abdelmadjid Tebboune à Moscou. Durant ce déplacement, plusieurs accords ont été signés dans les domaines de l'industrie et les technologies militaires, la lutte contre les terroristes, l'exploration spatiale, l'agriculture, les médias et la culture. Un centre logistique portuaire russe pourrait être construit par la Russie en Afrique de l'Est. Le ministre russe du développement économique, Maxim Reshetnikov, a annoncé lors d'une réunion avec Vladimir Poutine et les membres du gouvernement russe qu'il examinait actuellement cette possibilité. Selon lui, l'établissement d'un hub logistique russe sur la côte est de l'Afrique est nécessaire dans le cadre du corridor Nord-Sud. Ces déclarations font suite aux discussions entamées avec les pays africains en marge du sommet Russie-Afrique sur la création du corridor Nord-Sud. Pour rappel, la Russie, l'Inde et l'Iran ont signé un accord sur la création du couloir de transport Nord-Sud en 2000. Depuis, la liste des participants s'est élargie à 14 pays. L'objectif de ce projet est d'attirer le transit des flux des marchandises en provenance d'Inde, d'Iran et des pays du Golfe Persique via le territoire russe vers l'Europe. Cela permettrait de diviser par deux la distance et donc de réduire le temps et le coût du transport. Actuellement, le projet combine plusieurs systèmes de transport nationaux. Les marines de 4 pays africains ont été mises à l'honneur par un site américain qui recense les plus grandes flottes en nombre de matériel. Dans son dernier classement, l'Égypte est le pays africain le mieux classé avec la 13e place. Le pays des pharaons dispose de presque 250 navires militaires et de 8 sous-marins. L'Algérie occupe la 15e place avec plus de 200 navires et 6 sous-marins qui opèrent le long de sa côte. Le Nigeria est le 3e pays africain dans ce palmarès. Il occupe la 22e position avec une flotte de 163 bateaux. Enfin, le top 25 se renferme avec le Maroc qui dispose de 121 bâtiments de guerre. La première place de ce classement est occupée par la Chine avec 730 navires. Ce n'est pas une surprise puisque Pékin a fait de gros investissements ces dernières années pour moderniser sa marine. Elle peut se targuer de disposer d'une diversité de navires et de sous-marins incluant des porte-avions, des destroyers et des frégates. La Russie prend la deuxième place avec 598 navires militaires et 49 sous-marins. La Corée du Nord complète le podium devant les États-Unis. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Une semaine après la destitution de Mohamed Bazoum du pouvoir au Niger, la France est poussée vers la sortie. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont limogé 4 ambassadeurs de ce pays en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo. Des accords de coopération militaire avec Paris ont été dénoncés et les médias RFI et France 24 suspendus dans le pays. La CDAO a envoyé une délégation au Niger, mais elle n'a pas pu rencontrer les militaires au pouvoir. Pour rappel, cette organisation a suspendu les transactions financières avec Niamey et a menacé d'une intervention militaire si le président déchu, Mohamed Bazoum, n'est pas rétabli dans ses fonctions. Au micro de Spoutnik Afrique, Birahim Soumaré, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ex-ambassadeur du Mali en Turquie, et le docteur Yacinthe Ouédraogo, enseignant-chercheur burkinabé à l'université Nasi Boni Bobo, ont analysé la situation dans un entretien croisé. Écoutons-les tout de suite. Monsieur Soumaré, sur fond des derniers événements au Niger avec les menaces de la CEDEAO et le soutien apporté au peuple nigérien par les dirigeants du Mali et du Burkina Faso, quels enjeux géopolitiques pour la région voyez-vous ? Selon vous, existe-t-il un risque d'éclatement d'un nouveau conflit armé ?
Il faut bien dire, avant de commencer, que tous les États du Sahel ou de la CEDEAO, de façon large, sont des États souverains, premièrement, et que dans ce cadre-là, la souveraineté de chaque pays nécessite le respect, quels que soient les accords qu'on peut signer dans des organisations sous-régionales. C'est des États souverains qui ont fait ces organisations sous-régionales, premièrement. Deuxièmement, le fait qu'il y ait cette rupture, comme ils disent, pour employer leur vocabulaire constitutionnel, de l'ordre constitutionnel, n'est pas du tout du fait d'un besoin de vouloir s'échapper du fait qu'on doit relever le chef d'état-major, monsieur le général Modi, qui est venu d'ailleurs au Mali pour essayer justement de renforcer le cadre de coopération sous-régionale dans le cadre de la lutte contre le djihadisme, puisque ce sont des états du diktat Gourouma. Alors, c'est véritablement le fait de prendre une décision illégitime de sanctions contre ce pays par la CEDEAO et par la menace d'une intervention militaire qui fera qu'aggraver la crise sécuritaire que nous vivons, c'est ça qui doit être dénoncé et non le fait que chaque État souverain, en fonction de sa dynamique interne, a le droit d'avoir une posture en fonction des réalités de son pays. Donc, effectivement, cette intervention aura pour conséquence de troubler l'ordre au niveau de la PD, au niveau du Sahel, et voire de façon plus large, de troubler toute la partie de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au golfe de Guinée, et ça va continuer. Déjà, on a un problème de terrorisme. Aucune intervention internationale armée parrainée par je ne sais quelle organisation ne pourra rétablir l'ordre dans ce pays-là. On aurait dû lutter contre le djihadisme et non organiser une force, menacer un pays souverain parce qu'il a choisi de régler ses contradictions internes d'une façon assez spéciale qui lui appartient. Le coup d'État, les changements, l'intervention de l'armée au niveau du Niger, ce n'est pas un fait inédit. C'est la quatrième intervention. Donc ça a toujours été ainsi. Et à chaque fois qu'il y a des ruptures, ou à chaque fois que cette démocratie qu'on nous a importée, qu'on nous a imposée, chaque fois qu'il y avait des problèmes, l'armée intervenait. Alors c'est ce cas-là. Il a fallu que le général Modi vienne au Mali, consulter ses frères militaires ici à Bamako. À son retour, il a été sanctionné. On devait même l'envoyer comme ambassadeur dans un pays arabe, dans les Émiratis. Pourquoi ? Parce qu'il avait la volonté de coordonner la lutte contre le djihadisme entre les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Voilà l'explication de toute cette transformation au niveau du Niger.
Mais ce scénario d'une intervention militaire est-il probable ?
Non, ce scénario, d'abord, vous savez, hein, à moins que le Nigeria, qui a déjà suffisamment de problèmes, qui a Boko Haram à ses portes, qui a des problèmes d'organisation au niveau même de son armée, ça m'étonnerait qu'une force de la CEDEAO, une force en attente qu'on attend depuis Mathusalem, d'ailleurs c'est cette force qui a expliqué l'intervention, ils ont été obligés maintenant d'appeler Serval pour intervenir au Mali. Je ne crois pas du tout à ce genre de menace. Et s'il y a cette menace, ça veut dire qu'ils sont supportés, épaulés par des puissances extérieures à la sous-région.
Monsieur Ouédraogo, Monsieur Soumaré vient de nous dire qu'une intervention militaire de la CDAO était improbable. Quelle est votre appréciation de la situation au Niger ?
Comme vous le dites, depuis la fin du mois de juillet, on a assisté à une prise du pouvoir au Niger par les militaires. Et cela fait suite donc trois autres coups d'État. Et d'abord donc celui donc du Mali en 2020 et ensuite au niveau donc de la Guinée en 2021, ensuite au niveau du Burkina Faso en janvier et en septembre 2022 et donc récemment au Niger. Donc c'est une situation qui inquiète la CDAO parce que la CDAO s'inscrit dans la logique de la démocratie. Mais il faut dire une démocratie entre guillemets parce que c'est une démocratie calquée à l'européenne, une démocratie à la française, qui n'a rien à voir avec les réalités sociales, les réalités philosophiques des peuples africains. Ce qui fait que cette démocratie souffre parce qu'elle n'est pas en adéquation avec les attentes. Et moi, j'aime appeler ça plutôt de la plutocratie ou de la kleptocratie. Pourquoi kleptocratie ? Parce que ce sont les plus riches qui créent les partis et qui achètent l'électorat. Donc, on peut dire que les présidents ne sont pas élus, mais c'est des gens qui ont le pouvoir financier et qui achètent l'électorat, l'achat des consciences. Voilà un peu l'historique que l'on peut dire sur cette question de la démocratie dans la sous-région. Mais avec le contexte du terrorisme, ça fait que les populations sont dans le désarroi. Parce que le terrorisme est un mal parmi tant de maux qui minent les sociétés africaines et qui, ce terrorisme est venu montrer le vrai visage de la gouvernance politique, économique en Afrique. Si bien que, depuis donc que le terrorisme est là, l'armée est obligée, dans certains pays comme les pays que j'ai cités, de prendre le pouvoir parce que les hommes politiques, de par même leur relation avec certains terroristes, de par aussi leur incapacité à gouverner de façon vertueuse, parce que c'est le copinage, c'est le clientélisme politique, alors ça crée assez de problèmes. Voilà pourquoi ces pays-là ont connu ces coups d'État. Donc, la solution, ça sera un bain de sang, comme on le vit actuellement aussi en Ukraine, où ce n'est pas l'Ukraine qui est en guerre contre donc la Russie, mais c'est les puissances occidentales, c'est l'OTAN et autres là, qui pour des intérêts égoïstes sont en train donc de mettre donc l'Ukraine à feu et à sang. Donc je me résume en disant qu'il y a un risque potentiel d'éclatement d'un conflit armé et cela aura pour conséquence une fragilisation davantage des États sahéliens au profit du terrorisme et notez bien, si ce conflit est né, la France va profiter pour régler ses comptes avec le Mali, avec le Niger et autres puissances.
Monsieur Ouédraogo, quelles sont, selon vous, les raisons des événements turbulents qui se sont déroulés ces derniers jours au Niger ? Peut-on dire que c'est un nouveau coup dur pour la France et l'Occident qui sont en train de perdre leur influence au Sahel ?
Oui, c'est un coup dur, je l'ai déjà dit aussi, c'est un coup dur et la France ne veut pas perdre. C'est à la fois géopolitique, géostratégique, c'est économique, c'est politique. Et la France n'acceptera pas. Et elle a des pions qu'elle peut pousser à la CDAO. Elle-même, elle a une base. Vous voyez, quand on a cherché les bases du Burkina et du Mali, elles se sont repliées au niveau du Niger. Donc aujourd'hui, il y a d'importantes bases françaises au Niger. Elles-mêmes, elles peuvent intervenir en attendant et voilà. En masquant cela, en disant que c'est d'autres puissances, c'est la CDAO. Il y a des bases, une base américaine qui est basée aussi donc au Niger. Donc tout cela montre que perdre le Niger sera un coup dur pour la France. Pas seulement perdre le Niger, mais perdre aussi le Sahel. Et comme c'est un sentiment grandissant, un sentiment anti-politique française, alors si le Niger et si la France perd le Niger, d'autres peuples aussi vont tomber dans la même émancipation, dans la même ferveur populaire. Et ce n'est pas évident que dans les mois à venir, là, ce ne soit pas le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal qui soient aussi touchés par ce genre de mouvement de foule.
Et vous, Monsieur Soumaré, qu'en pensez-vous ?
C'est un très grand coup puisque le président Bazoum, c'était le symbole, c'était l'exemple de la collaboration avec l'Occident. Et lorsqu'il y a eu le repli des forces de l'armée française ici au Mali, ils ont trouvé toi et tout ça, ils se sont retrouvés au Niger. Donc c'est un coup à l'Occident, puisqu'il n'y a pas que la France au Niger, vous avez les États-Unis, vous avez presque tous les pays de l'OTAN, l'Italie, etc. Et les Américains, ils ont une grosse base là-bas, ce n'est pas seulement les Français. Il y a une des bases les plus stratégiques au niveau du Sahel se trouve au Niger, donc pour les États-Unis. Donc je considère que même si c'est trop tôt de tirer des conclusions, puisque l'histoire se fait actuellement, mais à terme, vu les échanges que le général Gianni, son discours à la nation, le message qu'il a envoyé au peuple nigérien en expliquant qu'ils ont le droit d'avoir des contacts, des alliances avec qui ils veulent, et le voyage du général Salifou Modi à Bamako, je pense qu'on s'oriente vers, si ce n'est une rupture totale avec l'Occident, à tout le moins, on se désengage de plus en plus de ça. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve presque dans tous les pays du Sahel, parce que c'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina, le Niger. Alors, vous avez le cas de la Mauritanie, qui est une autre conjoncture, mais en tous les cas, dans le cas du Niger, je crois qu'on s'achemine vers une sorte de décrochage, en tous les cas, avec l'Occident.
Monsieur Soumaré, peut-on estimer que c'est la politique de l'Occident, considérée par certains comme néocoloniale, qui a mené aux événements au Niger et qui est aujourd'hui la cause du sentiment anti-français dans la région?
Vous savez, même dans le cas du Niger, je vais vous donner un exemple qu'on peut reproduire dans tous nos autres pays. Regardez l'uranium de Niger. Mais 70% de l'uranium, c'est les Français. En Niger, vous n'avez pas d'électricité. Il y a des problèmes d'électricité. Point de vue militaire, les accords de militaires qu'il y avait entre l'armée malienne, l'armée nigérienne, burkinabé, tout ça. Lorsqu'ils viennent chez vous, ils ont un commandement, ils décident de tout. Les armées sont des armées de supplétifs. Donc, vous avez cette conception assez paternaliste qui fait que les gens en ont assez, on ne peut pas continuer comme ça. Et cette conception du sauveur, de celui qui vient amener la civilisation et qui met à quelqu'un pour jouer ce rôle-là, un rôle néocolonial, un rôle de gardien de boutique, ça c'est terminé, la jeunesse n'en veut pas et même ceux qui sont en responsabilité n'en veulent pas. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui au Niger, c'est de la génération, ils ont 60 ans à peu près, 60, 50 ans. C'est différent des jeunes qui sont au Mali ou qui sont au Burkina, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un problème de génération, c'est un problème de sang. Les gens en ont assez. Il arrive un moment que, quel que soit ton âge, quelle que soit ta formation, quel que soit ton niveau, tu te rends compte qu'il faut un changement radical des rapports internationaux. Et les gens en ont assez. Et ces militaires-là viennent cristalliser tout ce mécontentement-là et sont là pour, en symbiose avec leur peuple, pour rétablir un peu le rôle que l'Afrique doit jouer dans ce monde-là. On ne va pas continuer comme ça. Donc je crois effectivement que toute cette volonté néocoloniale france-africaine et tout ça, c'est terminé. C'est terminé. C'est une nouvelle géopolitique qui est en train de se dessiner dans ce monde-là, avec les BRICS, avec la Russie, avec la Turquie, avec d'autres pays, pour nous indiquer à quel point, et puis l'émergence de cette Afrique qui a toutes les ressources minières, toutes les ressources énergétiques, qui a les terres agricoles et qui a la population la plus jeune au monde. Donc, je crois que le changement de paradigme est fondamental. Celui qui ne le comprend pas, c'est à ses dépens. C'est le cas des autorités françaises.
Monsieur Ouédraogo, Monsieur Soumaré vient de nous dire que les événements au Niger sont liés à l'émergence d'une nouvelle géopolitique dans le monde. Quelle est votre opinion?
Oui, le sentiment anti-français aujourd'hui est dicté par l'histoire. Quand vous cohabitez avec une personne pendant des siècles et que cette personne est la cause de ce que j'ai déjà dit, colonisation, esclavagisme, néocolonisation, exploitation des richesses, soumission, Donc aujourd'hui, les peuples africains vivent dans la frustration. Il y a une maturation des mentalités. Il y a aujourd'hui une prise de conscience des peuples africains que la France, sa présence en Afrique, n'est pas pour le bien des Africains, mais c'est pour continuer à exploiter donc l'Afrique d'une manière ou d'une autre, comme d'ailleurs l'Afrique l'a été depuis 3 siècles, depuis 4 siècles, depuis en tout cas plusieurs siècles. Aujourd'hui, le sentiment anti-français est nourri par ces frustrations. Par exemple, si on prend l'exemple du terrorisme, les Africains aujourd'hui ne peuvent pas comprendre qu'une puissance militaire comme la France puisse stationner des bases au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et qu'en dépit en Côte d'Ivoire, et qu'en dépit de cela, les terroristes arrivent donc à circuler sous leur barbe et leur nez. Donc pour les Africains, il y a une complicité entre la France et les terroristes. C'est un sentiment qui est fortement ancré. Ce n'est pas de l'illusion, c'est de la réalité. Et plusieurs faits viennent prouver cela, viennent en tout cas étayer cette thèse. Deuxièmement, aujourd'hui, beaucoup d'Africains même sont convaincus que le terrorisme n'est qu'une nouvelle forme d'impérialisme. Aujourd'hui, pour les Africains, il n'y a pas de différence entre terrorisme et impérialisme. L'impérialisme ou la colonisation, c'était il y a 1 siècle, 2 siècles. Ils sont venus avec la force, ils ont soumis l'Afrique et ils l'ont exploité. Aujourd'hui, ils savent que les consciences sont éveillées. On ne peut plus avoir ces moyens barbares-là et pouvoir soumettre les gens. Voilà pourquoi ils passent par des terroristes qu'ils arment. Ces terroristes-là, ils trouvent les armes où? Donc, ils sont armés par l'Occident pour fragiliser les États. Si l'État central est fragilisé, l'État central ne peut plus avoir le contrôle du territoire, le contrôle des richesses. Alors, non seulement l'État central est obligé donc de faire appel aux troupes françaises qui viennent stationner, qui occupent ces un, et de deux, les localités contrôlées par donc les rebelles. Quand on prend par exemple l'exemple de Kidal, l'exemple de Gibo au Burkina Faso, c'est des territoires qui regorgent de richesses, qui les exploitent. L'exploitation est convoyée vers où on ne sait pas. Voilà un peu donc ce qui nourrit le sentiment anti-français aujourd'hui. Que la France, puissance militaire, se dise vouloir aider l'Afrique, mais se retrouve incapable donc de combattre le terrorisme efficacement en Afrique. Et les gens ne comprennent pas en Afrique pourquoi en Ukraine, la France n'envoie pas des soldats, mais elle envoie des armes pour soutenir les Ukrainiens. Mais quand c'est en Afrique, la France refuse d'envoyer des armes, la France envoie des troupes. Donc pour les Africains, ce n'est pas une défense, ce n'est pas pour participer à la défense de l'Afrique, mais c'est une forme de reconquête, de recolonisation donc de l'Afrique qui est savamment organisée et c'est un plan qui entre en droite ligne aussi avec les exigences du nouvel ordre mondial. Voilà donc ce que je peux dire pour cette question. Et je peux ajouter encore d'autres idées hein, parce qu'aujourd'hui, quand le sentiment anti-français aussi est nourri par l'extrême pauvreté. Et on prend l'exemple, par exemple, du franc CFA. C'est la seule monnaie coloniale encore en circulation, encore en vigueur dans ce monde. C'est inexplicable que vous créez une monnaie que vous-même, vous ne consommez pas, une monnaie que vous-même, vous n'utilisez pas, et vous imposez cette monnaie-là au reste du monde et aux pays africains. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, le franc CFA est géré par la France, est fabriqué donc à Charmelière, est géré par la France. Donc, tout ça, ça nourrit un sentiment anti-français profond et les peuples africains ont besoin donc de se libérer.
Monsieur Ouédraogo, passons maintenant au sujet des bases militaires. Le Niger abrite la plus grande base aérienne française en Afrique. Washington, qui dispose également d'une base militaire au Niger, a également exprimé son inquiétude quant à la situation dans le pays africain. Comment voyez-vous les risques pour les pays occidentaux sur fond des événements en cours ? Et comment la stratégie française et occidentale en général en Afrique peut-elle évoluer selon vous?
L'évolution de la situation en Afrique, elle est claire. C'est vrai, l'Afrique a besoin de soutien. Mais je sais que, comme je l'ai déjà dit, la prise de conscience, la maturation des mentalités est de telle sorte qu'elle est irréversible. Tôt ou tard, ça peut être en 2023, ça peut être en 2025, en 2030, je ne sais pas. Mais le processus est enclenché, c'est la fin de l'impérialisme en Afrique, surtout au Sahel. Les peuples ont pris conscience. Il y a de cela 3 ans. Moi, j'ai fait une publication en 2020 Et j'avais déjà dit, selon mes analyses, que la décennie 2020-2030 sera une décennie où la jeunesse africaine va se réveiller et va s'assumer dans les luttes politiques, économiques, idéologiques, en tout cas dans les divers domaines, pour imposer donc sa vision et donc se libérer non seulement des valets locaux de l'impérialisme, mais de l'impérialisme lui-même. C'est ce qui est en train d'arriver actuellement. Et il peut y avoir intervention française ou encore de la CEDEAO au Niger. Il se peut même qu'ils vont avoir la victoire en changeant de régime et en ramenant le président Duchy au pouvoir. Mais ça ne pourra pas entraver la prise de conscience des Africains. Et c'est un processus déclenché qui va aller vers son terme et personne ne pourra l'arrêter. C'est irréversible. Ils peuvent utiliser les armes, ils peuvent utiliser donc les moyens qu'ils veulent. Mais le sentiment anti-français, le sentiment et la ferme volonté pour la libération, l'indépendance et pour aller au vrai développement, pas un développement copié à l'Occident, mais le développement endogène lui-même, cette soif du développement endogène, cette soif donc de retour aux sources anime les Africains. Et tôt ou tard, la France va quitter l'Afrique. Et moi, je pense que dans cette décennie même-là, beaucoup de choses encore vont se dérouler et on n'arrivera pas en 2030 sans que la France n'ait reconnu la réalité des faits. Aujourd'hui, la France accuse la Russie. C'est la Russie qui alimente. La France accuse l'ingratitude des Africains. La France accuse une jeunesse irresponsable. Mais tout ça, c'est des alibis. La réalité, la vérité du moins, c'est que sur le terrain, la réalité, la misère des Africains, l'oppression, le terrorisme sont des preuves palpables que la France n'est pas la solution et que la France même est là pour exploiter l'Afrique et vivre donc des subsides de l'Afrique.
Et vous, Monsieur Soumaré, comment évaluez-vous l'avenir de la politique française et occidentale en Afrique ?
Bon, ce qui est certain, vous avez vu, le schéma est presque le même. À chaque fois qu'il y a ce genre de bouleversement de régime, ceux qui viennent au pouvoir, la première des choses, ils interrogent fortement les alliances ou les comptes ou les accords secrets ou pas secrets qui ont été conclus par l'ancien régime. Et ça va être le cas au Niger où il va y avoir une réévaluation de tous ces accords-là qui font que ces pays-là deviennent plus des bases de repli stratégique pour le pays qui est installé là que des bases qui viennent pour soutenir soi-disant la lutte contre le djihadisme ou autre forme de terrorisme. Donc, il va y avoir certainement, et j'en suis presque convaincu, une redéfinition de tout ça. Le Mali en est un exemple. Aujourd'hui, la coopération avec la Russie est très forte. Nous avons des instructeurs russes ici. Alors ça, c'est pas sortir d'un colonial pour aller vers un autre colonial qui serait russe, mais c'est redéfinir nos relations en fonction de nos intérêts, en tenant compte d'abord de nos intérêts endogènes et non être la plateforme qui va servir à une puissance de se déployer dans le monde pour contrôler les ressources, pour autre chose. Je crois qu'on assiste actuellement à un décrochage de ce modèle-là pour une vision beaucoup plus nationale, beaucoup plus souveraine dans les rapports entre les États. Et des pays comme la Russie, la Chine et autres ont compris ce message-là et ont eu des rôles, par exemple la Russie, dans le cadre du Mali, bon, on sort un peu du Niger, mais dans le cadre du Mali, nous avons toujours eu ce genre de collaboration déjà avec l'Union soviétique et en Angola, au Mozambique, etc. Donc, il y a juste un juste retour qui prend en compte de l'expérience qu'on avait de coopération avec l'Union soviétique, dont la Russie, nous pensons en être autrement, mais de toute façon toujours dans la même dynamique. Donc, nous essayons de recapitaliser cet héritage de coopération gagnant-gagnant qu'on avait initié dès les premiers jours de nos indépendances. Bon, le Niger n'a pas connu ça parce que c'était Amadou Diopri qui était au pouvoir, donc c'était très français-français. Le coup d'État de Sédhiou Kouné s'est toujours resté dans la dynamique française. Mais je crois observer depuis un certain temps, avec le discours du général Tiani et puis le général Modi, une volonté de se rapprocher du modèle malien et burkinabé et de tisser des relations stratégiques militaires avec les mêmes modèles du Mali comme du Burkina. Depuis un certain temps, l'OTAN a défini une nouvelle stratégie. Il y a eu une réunion qui s'est tenue à Nouakchott entre les autorités militaires de l'OTAN et puis ceux de la Mauritanie. Et puis le Niger avec Bazoum jouait un peu ce rôle-là. Ce qui est certain, c'est que travailler gagnant-gagnant du point de vue stratégique avec les pays occidentaux, ça demande de la part des pays occidentaux un changement de paradigme. Et pour le moment, je ne vois pas ce changement-là. Eux, ils viennent parce qu'ils ont des objectifs stratégiques et ces objectifs stratégiques sont surtout dirigés principalement contre la Russie et puis la Chine également. Donc, ils viennent et ils ne viennent pas pour aider ces pays-là. Ils viennent, même si c'est dans le cadre de la coopération, vous êtes un supplétif dans votre propre pays. Nos armées, par exemple, dans le cadre du Mali, il y avait la force Barkhane, la force tout ça qui était ici au Bamako, au Mali. Il y avait un commandement militaire, théoriquement, toutes les données, toutes les stratégies, tous les plans militaires devaient se faire en commun accord. Eh bien non, ça ne se faisait pas ainsi. Les militaires maliens étaient comme si c'était presque des supplétifs. C'est eux qui définissaient les objectifs et nous, on agissait. Alors ça, c'est fini, ça, c'est terminé. Voilà une des causes qui explique le départ même des forces Barkhane et puis le retrait du G5 Sahel. C'est notre volonté à nous maintenant d'imposer ce genre de vision et la Russie jusqu'à nouvel ordre joue ce jeu-là. Nous commandons des choses, nous définissons nos orientations stratégiques et en commun, il n'y a pas de rupture à ce niveau-là. Alors que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vision peut-être une vision voulant en fonction, il n'y a pas de pacte de Varsovie. C'est fini ça, depuis, c'est terminé. Alors que l'OTAN joue toujours dans cette dynamique-là et il faudrait que tous ces pays-là changent de paradigme. S'ils ne changent pas de paradigme, de toute façon, le Sahel est en train d'être perdu. Perdu dans le sens où les autorités civiles et militaires veulent avoir leur souveraineté, veulent être libres de prendre leurs décisions stratégiques et veulent être libres de travailler aux intérêts supérieurs de leur population. Donc, si c'est compris comme ça, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas compris comme ça, c'est certain qu'à terme, dans toute cette Afrique-là, ce sera très difficile d'avoir une vision otanienne au niveau de l'Afrique. Parce que les choses commencent à changer, on voit le Sahel aujourd'hui, mais il y a d'autres coins de l'Afrique où on sent un frémissement dans ce genre-là. Même des pays très alliés, très pro-occidentaux, comme le Kenya par exemple, ça commence à bouger.
Monsieur Soumaré, les manifestants au Niger ont brandi des drapeaux russes en scandant des chants anti-français, pareil qu'au Mali et au Burkina voisins à l'époque. Comment l'interpréter? Le drapeau russe a-t-il trouvé une nouvelle symbolique?
Le drapeau russe est utilisé comme étendard d'un souffle de liberté, d'un souffle de souveraineté, d'un souffle de volonté d'assumer nous-mêmes nos décisions stratégiques et d'assurer également les intérêts supérieurs de nos peuples. Ce drapeau-là est comme un étendard qui est mis comme ça pour exprimer ce désir-là. Alors, c'est très, 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 très symptomatique, puisque j'ai bien vu les images à la télé pour le Niger. C'est la fête de l'indépendance aujourd'hui de 5 août. Alors, c'est clair que c'est cette volonté qui est affichée aussi bien au Mali, au Sénégal, même au Sénégal, lorsqu'il y a eu des événements d'un opposant du nom de Ousmane Sonko. On a vu des jeunes Sénégalais brandir le drapeau russe. Donc, ça, c'est le message du souffle de cette jeunesse qui en a assez de vivre dans un étau complètement france-africain, rigide, rétrograde, néocolonial, pour aspirer à plus de liberté, plus de responsabilité.
Et vous, Monsieur Ouédraogo, comment interprétez-vous la présence des drapeaux russes dans les manifestations ?
Une nouvelle symbolique, oui, mais c'est même une symbolique historique. Parce que, n'oublions pas que depuis l'histoire, la Russie n'a jamais participé aux douleurs de l'Afrique. La Russie n'a pas participé à l'esclavage. Elle n'a pas participé à la traite négrière et encore moins à la conquête coloniale. La Russie n'a pas eu de colonie en Afrique. Et plus que tout cela, la Russie, pendant donc les luttes d'émancipation pour la décolonisation, la Russie a milité en faveur de la libération, de la décolonisation des pays africains. Donc, c'est historique. Donc, aujourd'hui, la Russie ou le drapeau russe est le symbole d'un espoir, le symbole d'une puissance qui peut défendre la cause des nations meurtries, des nations victimes de l'impérialisme. Donc, le drapeau russe est une connotation et une puissance qui permet l'équilibre du monde et qui empêche donc à certaines superpuissances, ou en tout cas puissances occidentales, d'imposer leur hégémonie dans le monde entier. Et pour les peuples africains, le drapeau russe ou la présence russe est symbole de résistance, symbole de contrepoids, symbole d'équilibre au niveau donc de la scène internationale. Voilà donc ce qu'on peut dire. Et aujourd'hui, brandir le drapeau russe, c'est aussi un appel au secours. C'est comme pour dire, nous sommes victimes de l'impérialisme, victimes d'une exploitation inhumaine, victimes de violence. Et ce drapeau-là est un signe d'espoir, un signe de délivrance, donc un signe pour écraser l'oppresseur, écarter l'oppresseur et permettre à ces peuples-là d'atteindre la liberté escomptée.
Monsieur Ouédraogo, comment voyez-vous la stabilisation au Sahel et qu'est-ce qui pourrait faire revenir la paix dans la région selon vous ?
Pour la stabilisation de l'Afrique, il faudra l'équilibre des forces. Parce que tant que les Africains seront laissés à eux-mêmes pour se battre contre la France et d'autres puissances occidentales, l'éveil de conscience est là. Et ça peut encore prendre du temps. Mais si aujourd'hui, des puissances comme la Russie, la Chine, la Russie et la Turquie, ou en tout cas d'autres puissances arabes, l'Iran et autres, s'intéressaient à l'Afrique, ça allait créer, surtout le Sahel, ça allait créer un équilibre de force. Aujourd'hui, pourquoi là, ils parlent donc d'agresser le Niger et non pas le Mali ou le Burkina Faso? Parce que là, ils savent qu'il y a des forces russes qui sont stationnées et ils n'osent pas enclencher donc une intervention. Et aujourd'hui, que la Russie, ou en tout cas les grandes puissances, intensifient leur intérêt pour l'Afrique, intensifient donc leur intérêt pour le Sahel. Et cela pourra donc équilibrer, rebattre les cartes sur le terrain, et cela aussi peut participer de la stabilisation, parce que aujourd'hui, c'est parce que le monopole est laissé aux grandes puissances, au niveau militaire, au niveau économique. Mais de plus en plus, la Chine investit, la Russie investit, et cela doit être donc accentué pour permettre l'équilibre des forces. Et quand l'équilibre des forces, ça crée aussi donc une crainte du côté donc de l'Occident, et ça peut participer de la stabilisation. Aujourd'hui, quand on prend le problème donc du terrorisme, et si les pays africains ne sont pas surarmés, armés au-delà des terroristes, il n'y aura pas de stabilité. Parce que ces terroristes-là, qui ne sont que la face visible d'un plan sordide, d'un plan funeste, conçu par l'impérialisme pour soumettre l'Afrique-là, tant que les États africains ne seront pas forts, forts militairement, économiquement, pour résister, il n'y aura pas de stabilité et on ne pourra pas donc aller au véritable développement économique.
Monsieur Soumaré, quelle est votre évaluation de la situation dans la région ?
La stabilisation au Sahel va dépendre d'une seule chose, c'est le désir de tous les gouvernements qui sont actuellement au pouvoir de traduire la volonté des peuples à s'assumer par elles-mêmes. Ne pas rentrer dans des schémas, des calculs, des visions hégémoniques qui n'appartiennent pas à son peuple. Ne pas être à la solde d'une hégémonie, d'une puissance, quelle que soit laquelle elle est, et se concentrer sur les besoins de nos peuples. Et c'est ce qui explique le djihadisme chez nous. Depuis que nos gouvernements démocratiquement élus ont eu comme juste vision l'application radicale des injonctions de Bretton Woods, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, etc., de la coopération occidentale d'une certaine mesure, le djihadisme a fait a poussé. Les populations ont été abandonnées, plus d'éducation, on coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans le même pour l'eau, les besoins de base ne sont pas assurés. Et là, les gens culbutent vers le djihadisme, qui est une forme, pour ceux qui ne sont pas importés venant du Pakistan, mais qui sont nés même au Mali ou bien dans nos régions, puisqu'on a des Maliens qui sont dans ces mouvements djihadistes, on a des Nigériens, on a des Mauritaniens, etc. Pourquoi ? Parce que ils ne vivaient plus en harmonie avec les besoins qu'ils exprimaient et que les autorités d'alors ne traduisaient pas convenablement. Donc pour la stabilité, c'est retrouver notre souveraineté et surtout ne pas se perdre dans les schémas hégémoniques de domination des autres nations qui ont tendance toujours à, dans leur paternalisme, qui est toujours renouvelé. Ils ont toutes sortes de techniques pour exprimer leur paternalisme. De temps en temps, c'est tout. De temps en temps, c'est pas tout. Alors, il faut se sortir de là. Donc voilà, ça, c'est ma conviction. Et c'est une conviction qui équivaut à un programme politique, qui est mon programme politique. Voilà.
Monsieur Ouédraogo, je vous donne le mot de la fin. Le Niger a suspendu RFI et France 24, décision décriée par Paris. Et ce, alors que les médias russes, dont notre média Spoutnik, avaient été interdits en France. N'est-ce pas un deux poids deux mesures qui se manifeste dans cette réaction de Paris et ces démarches hostiles visant les médias non mainstream ?
C'est comme vous l'avez dit, de la même manière que les médias russes ont été suspendus en Europe, notamment en France, de la même manière aussi, les médias français, RFI, France 24, ont été suspendus non seulement au Burkina Faso, au Mali, et tout récemment, donc, RFI, donc, au Niger. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que ces mêmes Français qui ont cautionné, qui ont permis, donc, et qui ont exigé même, donc, la suspension des médias russes en Europe, là, s'indignent du fait que leurs médias sont suspendus dans ces pays africains et ils les accusent, quoi, un musellement de la presse, ou en tout cas des mesures qui vont à l'encontre de la liberté d'expression, de la liberté donc d'opinion. Qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est comme vous l'avez dit, c'est du deux poids, deux mesures. C'est un traitement différentiel réservé à des situations similaires, dans des cas aussi similaires. C'est un dictat français en Afrique, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau donc... Par exemple, hier, j'ai évoqué la question du franc CFA. Il y a assez donc de domaines où, selon les médias, où selon la France, les Africains n'ont pas à décider, mais à subir leur dictat. Les États africains ne peuvent que subir ce qu'eux demandent. Donc, pour eux, que des médias français soient suspendus en Afrique, c'est déjà le comble de l'irrespect, c'est le comble donc de l'insoumission et même voir du manque donc de reconnaissance. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette situation. C'est le fait même qu'on ne reconnaît pas aux États africains le droit de décider, de réfléchir d'eux-mêmes, de décider de leur politique intérieure et de leur politique internationale. Voilà, pour même traiter cette question de diplomatie avec d'autres pays, la France veut que les États africains et son aval. Donc pour la France, suspendre les médias russes, c'est normal, parce qu'elle, elle est un État responsable, mais les États africains ne sont pas responsables pour décider. Sinon, si c'était ailleurs, on n'aurait pas vu donc, ce déferlement donc, d'attaque et de contre-attaque vis-à-vis de la décision donc, qui a été prise. Et pour compléter, pour ces médias occidentaux aussi, tout ce qui n'entre pas dans leur ligne éditoriale, ce qui n'entre pas dans leur vision, leur paradigme du monde, est à blâmer. Et voilà pourquoi tous les médias qui ne défendent pas les droits de l'homme selon eux, qui ne prônent pas les valeurs démocratiques à l'occidental, tous ces médias qui ne cautionnent pas aussi, voilà, donc leur dérive. Alors, ces médias ou ces groupes de réflexion et d'orientation donc, sont automatiquement fichés et condamnés. Et même souvent, des structures non, qui ne relèvent pas de la presse, qu'on qualifie souvent donc, de criminels, qu'on qualifie souvent même de terroristes, tout simplement parce que c'est des structures qu'on n'arrive pas à mettre au pas, c'est des structures qu'on n'arrive pas donc, à contrôler. Donc, le problème va même au-delà des médias. Ce problème même concerne toute la politique française en Afrique. Ou soit on est dompté par la France et on est accepté, soit on s'oppose à la France et on est automatiquement écarté et traité donc comme un rebelle, traité donc comme des comportements qui vont à l'encontre de l'état de droit. Voilà, quand on prend les libertés que défendent les Européens, c'est la même chose. Ils vont défendre l'homosexualité, ils vont défendre des choses inhumaines et dans leur logique, c'est normal. Et quand les États africains refusent, alors, ils sont considérés comme des États non civilisés, des gens qui refusent donc le progressisme.
C'était Birahim Soumaré, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ex-ambassadeur du Mali en Turquie, et le docteur Yacinthe Ouédraogo, enseignant-chercheur burkinabé à l'université Nasi Boni Bobo pour Spoutnik Afrique. À notre micro, ils ont analysé la situation au Niger, une semaine après la destitution de Mohamed Bazoum. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Le 5 août 1960, le Burkina Faso a obtenu son indépendance. Elle fit suite à la proclamation de la République de Haute-Volta le 11 décembre 1958. Le 18 février 1967, les relations diplomatiques entre l'URSS et le Burkina Faso ont été établies. Près de 3500 Burkinabés sont sortis diplômés des universités soviétiques et russes. Au micro de Spoutnik Afrique, Ludovic Tapsoba, le secrétaire général adjoint de l'Association des anciens étudiants et stagiaire de l'ex-URSS, et Noufou Zougomoré, journaliste et spécialiste de l'histoire politique du Burkina Faso, sont revenus sur cette date et sur ce que cela représente pour les Burkinabés. Monsieur Tapsoba, il y a 63 ans, le Burkina Faso a obtenu son indépendance. Comment cette date a changé la vie des Burkinabés? Et qu'est-ce qui a poussé le plus le peuple à lutter pour son indépendance?
C'est vrai, ça fait 63 ans que le Burkina Faso est indépendant, mais notons qu'il s'agit d'une indépendance politique. Cette indépendance n'a jamais été totale. C'est-à-dire que sur le plan économique, nous sommes restés liés à notre colonisateur et on ne pouvait pratiquement pas prendre de décision sur le plan économique puisque notre monnaie était fabriquée par le colon dans le pays du colon et les accords nous étaient imposés. Même le prix de l'or nous était imposé. Donc, je dirais qu'il s'agit simplement d'une indépendance politique, mais pas une indépendance totale.
Et vous, Monsieur Zougomoré, pouvez-vous revenir sur les raisons qui ont poussé le peuple à se battre pour son indépendance?
La Haute-Volta, l'ancienne appellation donc du Burkina Faso, était sous tutelle coloniale. Et pendant la colonisation, le peuple burkinabé a subi beaucoup d'atrocités. D'où son engagement pour lutter pour son indépendance. Ça a été des grandes luttes menées pendant plusieurs années. Et en 1960, l'ancien maître a consenti donc lui donner son indépendance. Qu'est-ce qui a changé? Le fait donc d'être libre, c'est déjà important pour un peuple. Mais il faut quand même souligner que en 1960, il y a eu une problématique puisque le colonisateur a fait de telle sorte que ce soit ces gens qui allaient donc diriger donc le pays. D'où le fait qu'une frange donc du peuple burkinabé croit que l'indépendance était beaucoup plus formelle qu'une véritable indépendance. Qu'est-ce qui a changé? Bon, le pays a eu donc l'indépendance formelle. On a eu un président, on a eu des institutions, mais cela n'a pas suffi parce que le colonisateur a continué d'une certaine façon à régenter le pays par donc l'entremise de ceux qu'ils ont mis en place, les voltaïques, mais qui travaillaient donc pour l'ancien colonisateur.
Monsieur Tapsoba, est-ce qu'après plus de 60 ans d'indépendance, les Burkinabés ont-ils réussi à prendre leur destin en main?
Je dirais sur le plan politique, après ces 63 ans, vous vous rendez compte que de plus en plus, il y a des sentiments vraiment d'indépendance totale. Même sur le plan économique, maintenant, on cherche justement à s'affranchir de cette tutelle coloniale. Vous vous rendez compte que plus récemment, on a demandé à ce que l'armée française, qui est une armée d'occupation, puisse quitter le Burkina Faso.
Monsieur Zougomoré, êtes-vous d'accord sur ce que vient de nous dire Ludovic?
Je crois qu'il y a un secteur clé qui n'est pas maîtrisé donc par le Burkina Faso, c'est le secteur économique. Nous continuons de dépendre donc de l'extérieur, alors que nous savons que la liberté est dépendante de ce facteur donc économique-là. Pour cela, nous ne pouvons pas dire que nous sommes véritablement indépendants. Notre budget dépend en partie donc des partenaires extérieurs. Et certains de nos sentiers sont financés par ces partenaires. Nous ployons sous le poids donc de la dette parce que on est obligé souvent de contracter des dettes. Donc c'est une indépendance pas totalement acquise parce que nous ne maîtrisons pas le secteur économique. Et quand économiquement on n'est pas indépendant, on est à moitié indépendant et on est véritablement handicapé. On ne maîtrise pas les leviers économiques.
Monsieur Zougomoré, nous avons vu les images montrant le président Ibrahim Traoré accueilli en grande pompe par des milliers de jeunes après son retour de Russie où il a participé au sommet Russie-Afrique. Certains analystes le comparent à Thomas Sankara. Il est jeune, il est plein d'énergie, il est brave. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison?
Il est très tôt de comparer le président Ibrahim Traoré au président Thomas Sankara parce que Saint-Pétersbourg, à mon avis, c'est une nouvelle destination et pour le moment, nous n'avons pas les résultats donc de cette destination. Donc, difficilement, on peut comparer le président Ibrahim Traoré au président Thomas Sankara parce que le président Thomas Sankara est un produit des organisations de gauche du Burkina Faso et c'est pendant longtemps qu'on a mûri le processus révolutionnaire avant son avènement. C'est pas la même école, c'est pas le même trajectoire Ibrahim Traoré et Thomas Sankara.
Et vous, monsieur Tapsoba, que pensez-vous de la comparaison de Thomas Sankara avec le président Ibrahim Traoré?
C'est vrai, comme un proverbe le dit, comparaison n'est pas raison. C'est vrai que le président, il a de la volonté de s'affranchir un peu de la domination coloniale. Il est très volontariste, mais malheureusement et contrairement à Thomas Sankara était quelqu'un de la gauche qui est très déterminé et qui était accompagné par une classe politique. Et nous notons que le président actuel, il est très volontaire comme Sankara, mais il n'a pas de base politique pour l'accompagner dans certaines actions. Si vous savez que nous, en préparant notre pré-forum Russie-Afrique, nous avons voulu mettre en place des mécanismes dans l'intérêt du peuple burkinabé pour mieux négocier des accords avec la Russie. On s'est dit que voilà, l'association des anciens étudiants de la Russie, nous constituons une bonne base pour pouvoir accompagner le président dans cette volonté politique, puisque nous avons plus de 3000 cadres qui ont été formés en Russie. Nous sommes dans tous les secteurs du développement et nous avons donné notre quitus au chef de l'État pour l'accompagner. C'est ce qui manque vraiment au président Ibrahim pour être parfaitement identique à Thomas Sankara. L'action et la classe politique.
Monsieur Tapsoba, Thomas Sankara défendait les idées du panafricanisme dénonçant le colonialisme. Dans une interview exclusive accordée à notre média Spoutnik, Ibrahim Traoré a lui aussi appelé à ce que l'Afrique s'unisse. Quelle est votre lecture de ces idées dans le contexte actuel?
Évidemment, vous savez que les pays africains, après la balkanisation, c'est devenu des pays insulaires, des pays qui n'ont même pas l'accès au port, qui ne peuvent pratiquement pas se développer indépendamment de l'Occident. Tout ça, c'était sciemment fait. Et on se dit que seule l'Union et tous ces pays-là, en un seul bloc, pourra vraiment focuser l'économie de l'Afrique. Et là, je dirais que Ibrahim Traoré a parfaitement raison de penser sur le panafricanisme. Et nous aussi, qui avons été formés en Russie, nous avons des représentants partout dans tous les pays d'Afrique. Et nous avons pris contact avec ces pays pour vraiment accompagner l'État burkinabé dans cette vision. Nous avons des ressortissants qui ont étudié au Mali, en Guinée et un peu partout. Et nous attendons justement le futur pour pouvoir organiser tous ces gens vers un panafricanisme réel. Parce qu'il ne s'agit pas d'être volontariste, il ne s'agit pas de dire qu'on veut être panafricaniste, mais il faut travailler avec les associations, avec les hommes politiques pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est ce qui un peu manque pour le moment.
Monsieur Tapsoba, Ibrahim Traoré a également étayé l'idée d'une fédération avec le Mali. Il a notamment indiqué que d'autres États pourraient se joindre à la fédération s'ils étaient intéressés, notamment la Guinée. Sur fond des événements en cours au Niger, pensez-vous qu'il pourrait être intéressé?
Pour ceux qui ont suivi un peu le pré-forum de Ouagadougou qui s'est tenu le 3 juin, que nous avons organisé, et l'Association des anciens étudiants de l'ex-URSS, nous avons réuni les pays comme la Guinée, le Togo, le Niger et le Mali, et même, je dirais, l'Afrique centrale, notamment le Rwanda, et qui ont posé ce problème comme étant un acte fondamental et une recommandation. Il va falloir que les États que nous représentons aujourd'hui puissent véritablement aller vers une union. Imaginez-vous que aujourd'hui, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger décident d'avoir leur oléoduc qui vient de la Russie, où nous allons faire des échanges de gaz et de pétrole, ça sera non seulement intéressant pour les pays, mais aussi intéressant pour la Russie. Donc ce n'est que dans un panafricanisme réel et concret que nous allons pouvoir impacter véritablement ce développement économique. Je suis parfaitement d'accord avec le président Ibrahim, et il faut travailler à cela. Pas seulement rester faire des déclarations, parce que beaucoup de gens l'ont fait depuis 1960 avec l'OIA, mais voilà que nous sommes toujours restés en stand-by. Il faut maintenant travailler avec les forces vives de la nation.
Et une toute dernière question. Que signifie pour vous cette date, M. Zougomoré?
Le 5 août, c'est la date donc de l'indépendance du Burkina Faso. Mais je vous ai dit que vers 1960, ce n'était plus ceux qui étaient véritablement dans la lutte pour l'indépendance qui étaient au devant. Par exemple, notre président Maurice Kamboro, une année avant donc les indépendances, n'avait pas souhaité que le Burkina Faso soit indépendant. Il l'a dit, par exemple, dans une province de la Haute-Volta à l'époque, aujourd'hui Burkina Faso, qu'il faut prier pour qu'on s'éloigne donc de cette calamité qu'on appelle l'indépendance. Curieusement, en 1960, c'est le même bonhomme qui a été fait donc président de la Haute-Volta. Donc, les véritables acteurs qui voulaient de l'indépendance, ce ne sont pas eux qui ont été les premiers responsables donc, de notre indépendance. Donc, les 5 août, pour moi, ne signifient pas grand-chose. Moi, je me reconnais beaucoup plus au 4 août, qui a été véritablement un tournant. Et pendant les 4 années, nous avons vu des actions qui tendaient vraiment à nous mettre donc, sur les rails donc, de la liberté. Quand vous me dites de comparer le processus révolutionnaire incarné par Thomas Sankara à ce que nous voyons aujourd'hui, moi je trouve que c'est très tôt.
Et vous, Monsieur Tapsoba, qu'est-ce que cela représente pour vous?
C'est la volonté du peuple burkinabé de s'affranchir du colon français pour pouvoir promouvoir son propre développement. Justement, le président Maurice Yamouro, ce jour, a fait une déclaration solennelle et que donc je cite, au nom du droit naturel des hommes, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, il a proclamé l'indépendance du Burkina Faso. Donc nous avons voulu, par cette indépendance, être libres, égaux et fraternels avec tous les autres peuples du monde. Mais malheureusement, après 63 ans, nous nous rendons compte que cette indépendance politique est toujours sous domination coloniale.
C'était Ludovic Tapsoba, le secrétaire général adjoint de l'Association des anciens étudiants et stagiaires de l'ex-URSS, et Noufou Zougomoré, journaliste, spécialiste de l'histoire politique du Burkina Faso pour Spoutnik Afrique. Ils sont revenus sur l'indépendance du Burkina Faso intervenue il y a 63 ans et évoqué ce qui a changé aujourd'hui pour les Burkinabés. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.